Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Oui, Mary smuggled butter, Molly smuggled tea, Paddy smuggled whiskey with the hard border in his way. Oh, checkpoint on the border, or will we sail right through? Or will the customs stop us checking everything we do? Oh.
Bonjour, le Premier ministre britannique Boris Johnson a maintenant un peu moins de 48 heures pour convaincre son Parlement d'approuver le nouvel accord de Brexit trouvé par les Européens et les Britanniques. Et ce n'est pas encore fait, même si l'accord annoncé à Bruxelles ce jeudi est salué comme une véritable avancée après des mois de blocage. Parmi les premiers concernés par l'accord de Brexit, les Irlandais, pour des raisons économiques, tant les relations commerciales et financières sont entrelacées entre Londres et Dublin, pour des raisons politiques aussi, puisqu'un Brexit sans accord et le rétablissement d'une frontière menacerait la paix signée il y a 20 ans entre l'Irlande du Nord, britannique, et la République d'Irlande, toujours membre de l'Union européenne. Alors en attendant le vote des parlementaires, à Londres, les Irlandais vont vivre quelques jours encore dans l'incertitude sur l'avenir. L'agriculture est l'un des secteurs les plus sensibles. Les Irlandais exportent la quasi-totalité de leur production. 40% part vers le Royaume-Uni. Notre correspondante à Dublin, Emeline Vin, est allée à la rencontre des agriculteurs irlandais.
Chaque automne, le championnat de labour, c'est la grande fête de l'agriculture en Irlande. Mais cette année, un hôte un peu embarrassant s'est invité. Pancarte, cadeau promotionnel, conversation, le Brexit est partout.
Vous voyez ici, les gens s'amusent, mais on ne fait pas beaucoup d'affaires cette année.
John Clark, éleveur dans le comté de Roscommon, à l'ouest du pays.
On doit tous prendre nos précautions, c'est nécessaire. Il faut faire attention à ce qu'on dépense. Les gens font très très attention parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend.
John Clark élève une quarantaine de bœufs Shorthorn, une race à viande à la robe couleur chocolat. Il s'attend au pire en cas de Brexit sans accord.
Notre principal partenaire commercial, ce sont les Britanniques. Alors s'il n'y a pas d'accord de libre-échange, le prix du bœuf va chuter. Il y aura des droits de douane. Ils vont se répercuter sur les producteurs. Donc on touchera un moindre prix pour notre viande.
Une inquiétude généralisée. Il faut dire que l'Irlande exporte 50% de sa viande de bœuf au Royaume-Uni.
Si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, c'est la France qui devient notre principal partenaire commercial en Europe. Est-ce que la France est prête à nous aider à nous en sortir?
John Clark est convaincu que non, la France n'importera pas ce que Londres achetait jusqu'ici. Alors, pour se préparer aux difficultés à venir, il a pris ses précautions.
Tous les animaux que j'avais à vendre, je les ai vendus. D'habitude, j'attends la fin de l'année, mais là, je fais très attention à ma trésorerie. J'investis moins aussi. Pourquoi investir maintenant? Dans la vie, la crise peut aussi devenir une opportunité. Peut-être que l'année prochaine, ce sera moins cher.
En attendant, il le sait, son exploitation va perdre de l'argent cette année. Investir moins pour mettre de côté dans un contexte déjà difficile, c'est à peu près le seul conseil que peuvent donner les organisations agricoles. Edmond Phelan, président de l'association des éleveurs de bœufs et de moutons.
Un agriculteur ne peut pas faire grand-chose pour devenir Brexit ready. Tout dépend de s'il y a un marché où exporter. Avec le Royaume-Uni, nos systèmes d'élevage sont très similaires. Les Britanniques aiment nos produits. Mais le risque, c'est qu'après le Brexit, ils pourront bien acheter là où ils veulent.
Lui-même éleveur de bœuf, il craint la concurrence de la viande brésilienne, de moindre qualité, mais à moindre coût. Et selon lui, les agriculteurs irlandais ne seront pas les seuls à souffrir d'une sortie sans accord du Royaume-Uni.
Ça va concerner tous les pays européens. Nous exportons actuellement 250 000 tonnes de bœuf au Royaume-Uni. Si nous perdons ce marché, cette viande va se retrouver sur les étagères des supermarchés européens et ça va tirer les prix vers le bas.
Au-delà du commerce s'ajoute la question de la sécurité. Edmund Phelan craint le retour d'une frontière entre l'Irlande du Nord et la République.
C'est l'une de mes plus grandes craintes. Ça ne fait que 20 ans que la question de la frontière a été réglée. En ce moment, il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est là, prêt à surgir de nouveau.
Ça ne fait que 20 ans et les souvenirs sont encore vifs.
Je m'appelle Thomas Cooney. Ma ferme est à 10 miles de la frontière.
Thomas Cooney et ses 50 vaches produisent principalement du lait pour une coopérative transfrontalière.
Dans les années 80, si vous vouliez aller au nord, il y avait des checkpoints. S'il y avait un incident, vous pouviez faire la queue pendant 2 ou 3 heures. Nous ne voulons pas retourner à ça. Imagine si chaque camion devait être fouillé, faire contrôler ses papiers, ce ne sera pas pratique.
Peu commode, d'autant que la majorité majorité de ses clients se trouve côté britannique. L'éleveur laitier porte également la casquette de responsable syndical au sein de l'Association irlandaise des agriculteurs. Il rejoint John Clark et son confrère Edmund Phelan. Si no deal il y a, il faudra trouver de nouveaux marchés.
S'il y a le retour d'une frontière physique avec le Royaume-Uni le 31 octobre, il faudra que l'Europe nous aide via un fonds de solidarité le temps qu'on trouve de nouveaux marchés.
Selon la Banque centrale d'Irlande, en cas de no deal, un agriculteur sur trois dans le pays sera forcé de renoncer à son activité.
L'accord trouvé par Londres avec l'Union européenne doit être approuvé par le Parlement britannique et par le Parlement européen. C'est Michel Barnier qui l'a annoncé devant la presse juste après un message de Boris Johnson envoyé sur Twitter.
Nous avons obtenu ensemble un résultat juste et raisonnable qui correspond à nos principes. Du côté européen, il appartient maintenant au Conseil européen d'apprécier le contenu de cet accord et ensuite, s'il le veut bien, au Conseil de l'approuver, tout comme le Parlement européen qui aura le dernier mot. Nous allons poursuivre ce processus dès aujourd'hui pour un retrait ordonné du Royaume-Uni qui vaut beaucoup mieux qu'un retrait désordonné. Et si je puis dire surtout, pour commencer, nous le souhaitons le plus tôt possible dès le 1er novembre, à travailler à un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni.
Avec ce nouvel accord, ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'Union européenne a su rester unie dans des négociations terriblement difficiles et tendues. 27 États membres qui ont parlé d'une seule voix depuis le début officiel des négociations, le 29 mars 2017. Et très vite, ces discussions vont se cristalliser autour de la question irlandaise. On retrouve Daniel Vigneron de MyEurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Un homme en particulier a travaillé à cette unité.
Il faut souligner le rôle central dans ces difficiles négociations du Premier ministre irlandais que l'on désigne à Dublin sous le terme de Taoiseach, le chef. De fait, Leo Varadkar, médecin d'origine indienne nettement positionné à droite, s'est beaucoup impliqué dans les négociations du Brexit depuis sa désignation en juin 2017. Il a en particulier forgé la cohésion européenne face à Londres grâce au dialogue constamment entretenu avec les pays de l'Est qu'il a su sensibiliser sur le risque d'un nouveau rideau de fer entre les deux Irlandes.
Et pourtant, il y aurait pu y avoir des unions. Il y avait déjà eu un accord signé avec la précédente chef du gouvernement britannique, Theresa May, rejeté par le Parlement de Westminster. Il a donc fallu que Londres fasse un pas vers les Européens pour parvenir à un accord. En quoi consiste ce pas en avant côté britannique ?
Simplement sur le fait que Boris Johnson et les Hard Brexiters ont bougé en direction de l'Europe. Rejeté à trois reprises par le Parlement britannique, le défunt accord européen se fondait sur un backstop, littéralement un non-retour en arrière, visant à écarter tout rétablissement de frontières en Irlande. Mais Bojo et ses amis n'ont jamais accepté l'idée d'un maintien, certes provisoire mais sans durée précisée, du Royaume-Uni dans son ensemble au sein de l'Union douanière européenne, tandis que l'Irlande du Nord serait restée de surcroît dans le marché unique. Pour les Hard Brexiters, cela revenait en quelque sorte à désarimer l'Ulster, l'autre nom de l'Irlande du Nord, et la Grande-Bretagne.
Alors ce qu'il faut dire, Daniel, c'est que le compromis trouvé aujourd'hui reprend sans modification majeure une grande partie des négociations faites du temps de Theresa May, comme la garantie des droits des citoyens européens. C'est sur la question irlandaise que se concentrent les principaux changements, et sur le nouveau filet de sécurité sur l'Irlande, avec donc ce semi-recul des Britanniques sur la question de la frontière irlandaise, avec cet accord hybride trouvé qui permet que l'Irlande du Nord ne reste pas dans l'Union douanière européenne, mais qu'elle applique la réglementation et les normes européennes. Ça signifie que des douaniers britanniques en Irlande du Nord vont devoir appliquer les règlements européens pour les marchandises qui iront en direction de la République d'Irlande. Et puis côté européen, on a fait aussi une grosse concession. L'Assemblée nord-irlandaise pourra donner tous les 4 ans son avis sur le dispositif mis en place. Et si l'accord n'est pas validé, Daniel, ce serait catastrophique.
D'abord pour le Royaume-Uni, bien sûr, mais aussi pour certains pays européens très exposés comme les Pays-Bas, gros exportateurs et investisseurs outre-Manche, et surtout, comme on l'a vu, l'Irlande. Économiquement déstabilisée, politiquement menacée, la République pourrait de surcroît voir se compliquer ses relations avec l'Union. Quant à cette dernière, ce qu'elle redoute par-dessus tout en cas de no deal, c'est de voir se créer à sa porte un énorme paradis fiscal déréglementé.
Merci Daniel Vigneron. Brexit at Halloween. We are going to come out.
out of the EU on October the 31st.
Brexit at Halloween.
We are going to come out of the EU on October the 31st.
Pour le moment, les entreprises britanniques ne sont qu'à moitié rassurées par l'annonce d'un nouvel accord entre Londres et Bruxelles. Si le Parlement décide de rejeter à nouveau le texte, alors l'ombre d'un no deal, d'une sortie sans accord reviendra encore plus menaçante. Depuis son arrivée au 10 Downing Street, Boris Johnson a accéléré les préparatifs pour un no deal, notamment à la frontière. Mais selon un rapport du National Audit Office, un organisme chargé de contrôler les dépenses gouvernementales, la situation à la frontière serait moins qu'optimale, Marie Billon.
Des retards chez les transporteurs, une augmentation de la criminalité et une baisse de la vigilance concernant l'immigration. Voilà les trois plus gros problèmes qui pourraient se poser si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne le 31 octobre sans accord. D'abord, les retards. Ils pourraient eux-mêmes avoir des causes multiples. Ils peuvent provenir des contrôles aux marchandises imposés par les pays européens ou bien des entreprises elles-mêmes. Selon le National Audit Office, le 8 octobre, seulement 25 000, soit un business sur 10, parmi ceux qui font du commerce avec ou en passant par l'Union européenne, s'étaient enregistrés et avaient adhéré aux procédures de simplification temporaire mises en place par le gouvernement. Le gouvernement britannique, d'ailleurs, a bien lancé une campagne de pub il y a plusieurs semaines. Préparez-vous pour le Brexit. Mais certaines entreprises n'ont pas les moyens de faire des démarches qui sont potentiellement coûteuses et surtout possiblement inutiles en cas d'accord. Seuls 20% des PME, par exemple, ont fait le nécessaire pour passer les douanes françaises sans souci. Mais il y a pire, selon le National Audit Office. Il est probable que des bandes organisées et autres criminels parviennent rapidement à exploiter les faiblesses, lacunes et contradictions du système. Tout cela créerait un terrain propice à la fraude fiscale ou au non-respect des normes réglementaires. Enfin, et c'est le troisième point, sensible pour la population qui a voté pour le Brexit, le manque d'informations et de vérifications pourrait favoriser l'immigration illégale. Pour tenter de parer à tout cela, le gouvernement a embauché 500 gardes-frontières supplémentaires depuis le mois d'avril. Le but est d'en embaucher encore 500 autres dans un délai qui n'a pas été précisé.
Chez les partenaires européens, on a également poursuivi les préparatifs en vue d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. La grande inquiétude, c'est le chaos transmanche. Chaque jour, plus de 10 000 camions venus de toute l'Europe traversent la Manche par le ferry ou par le tunnel. En valeur, c'est 300 milliards d'euros de marchandises qui circulent chaque année d'après des chiffres relayés par le journal Les Échos. Le moindre grain de sable dans l'engrenage peut donc virer à la catastrophe. En France, en tout cas, on se dit fin prêt et on ne redoute pas les embouteillages. Il y a quelques jours, les douanes françaises organisaient d'ailleurs une sorte de répétition générale dans le port de Calais. Le reportage de nos confrères de la RTBF sur place, François Andréoletti et Annick Capel.
L'énorme ferry déverse sa cargaison. Un flot interminable de voitures, de camionnettes, mais surtout de poids lourds. Chaque jour, entre 4 et 6 000 camions passent par Calais pour rejoindre la France ou le Royaume-Uni. Le trafic est parfaitement fluide. Mais en cas de Brexit dur, ce sera le retour des formalités douanières. Alors aujourd'hui, on fait le test en conditions réelles.
Bonjour monsieur, est-ce que vous avez des documents douaniers à me présenter ?
Une dizaine de camions participent au test. Chacun présente un document, une déclaration de douane qui est scannée par le douanier. Un système informatisé très moderne, une grande fierté pour Éric Meunier, directeur interrégional des douanes.
Le système d'information Brexit permet, sur la base de déclarations préalablement déposées par les opérateurs, d'avoir pour le chauffeur, qui va se présenter à l'embarquement d'un ferry, un code barre qui sera scanné et qui associera son poids lourd à la marchandise qu'il transporte.
Particularité du système, c'est quand le poids lourd est sur le ferry que la déclaration de douane est traitée, de quoi garantir la fluidité du trafic.
Pendant la durée du trajet, le système informatique douanier va traiter cette déclaration associée au poids lourd, permettre à la descente du ferry d'indiquer au chauffeur s'il part sur une voie verte libérée ou bien s'il est mis en contrôle douanier.
À la descente du ferry, en effet, une nouvelle signalétique a été mise en place. Les poids lourds savent directement quelle voie emprunter. Benoît Rocher, un des exploitants du port de Calais.
Le chauffeur sait si le statut est vert, c'est-à-dire si la sortie du port est autorisée par la douane, auquel cas le chauffeur prend la ligne verte qui est en fait la ligne qui est utilisée aujourd'hui, ou s'il est en fil orange. Auquel cas, cela signifie que il y a une formalité à compléter ou que la douane souhaite procéder à une visite, à une inspection du chargement.
La voie orange conduit les camions vers un parking un peu plus loin, comme ce poids lourd qui transporte du ciment. Il est soumis au contrôle des douaniers.
Donc là, on vérifie la conformité de la déclaration et de la marchandise qui est à bord du poids lourd.
Plus de 150 places de parking ont été mises en place pour accueillir les poids lourds qui seront ainsi contrôlés. Jean-Michel Tillier, directeur général adjoint des douanes.
Alors il y aura des contrôles des deux côtés, donc des contrôles douaniers donc sur ma droite et derrière sur ma gauche des contrôles vétérinaires et phytosanitaires. Ça peut concerner du poisson, des parties d'animaux, enfin tout le règne animal et végétal donc et les produits transformés à partir de ces animaux.
Ce dispositif suffira-t-il à éviter l'engorgement en cas de Brexit sans accord? Tout dépendra selon Éric Meunier de l'anticipation des entreprises elles-mêmes.
Ce qui est essentiel, c'est que les opérateurs aient préparé la déclaration en douane, qu'ils aient anticipé leurs formalités. Tous les camions qui arriveront à l'importation ou à l'exportation sur les sites portuaires transmanche devront avoir réalisé leurs formalités. Dans l'hypothèse où ils ne l'ont pas fait, eh bien à ce moment-là, ils ne pourront pas embarquer.
L'incertitude vient surtout des poids lourds non français.
80% de ce qui traverse ici la Manche vient d'un autre État membre de l'Union européenne. Donc c'était important de travailler en direction des entreprises françaises, mais également en direction des entreprises espagnoles, belges, néerlandaises, polonaises et ainsi de suite. Donc on a tout fait pour que ça se passe bien. Après, c'est vrai qu'on dépend beaucoup de la façon dont les entreprises de transport et les exportateurs de tous les membres de l'Union européenne vont écouter nos conseils donc de préparation du Brexit.
Les douanes et les autorités portuaires françaises sont convaincues que l'on peut éviter le chaos, du moins si les entreprises jouent le jeu de l'anticipation.
Toute l'Europe a à craindre d'un Brexit sans accord. Même en République tchèque, l'industrie brassicole s'inquiète beaucoup de l'impact du Brexit. Les exportations de bière, produits phares de l'économie nationale, sont déjà en forte baisse, Alexis Rosenzweig.
Alors que les brasseurs du pays viennent de célébrer dans la joie et l'allégresse les journées de la bière tchèque fin septembre, avec des chiffres relativement bons pour 2019, la perspective du Brexit laisse planer quelques doutes sur l'avenir de l'industrie. Les brasseurs tchèques abattus par l'incertitude autour du Brexit, les exportations vers les îles britanniques en forte baisse. C'est ainsi que titrait récemment un quotidien économique. Les brasseurs ne savent pas comment se préparer et doivent envisager tous les scénarios possibles, explique la responsable de l'Union tchèque des producteurs de bière, qui indique exporter plus de 260 000 hectolitres de bière par an au Royaume-Uni. Inquiétude également pour la bière la plus célèbre de République tchèque, la Pilsner Urquell, aujourd'hui propriété d'un grand groupe japonais, qui s'inquiète de devoir cesser toute exportation de boissons houblonnées en grand réservoir, alors que la demande était croissante outre-Manche. Le problème, explique l'un des managers, et que la bière se conserve assez mal dans ses réservoirs et ne peut se permettre d'être bloquée à la frontière à cause de longs contrôles douaniers. Autre facteur important, le cours de la livre sterling en baisse constante ces derniers mois. Les plus grands brasseurs tchèques ont des filiales au Royaume-Uni qui convertissent le prix de couronne tchèque en livres et le prix de la pinte devient de plus en plus élevé pour les consommateurs britanniques. Des consommateurs qui, Brexit ou non, continueront de venir ingurgiter à Prague des hectolitres de cette hors de bohème au cours de leur traditionnel enterrement de vie de garçon ou autres voyages de groupe pendant lesquels l'alcool joue souvent le rôle principal.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site internet rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.